proposé, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
I'm not going to give you a question. You are fake news. Go ahead.
And the Oscar goes to Damien Chazelle.
Good morning Tour, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus Tour. Nous sommes le vendredi 9 décembre, il est 7h19 et c'est parti pour la matinale des étudiants de l'EPJT. Une matinale en format réduit puisque l'on est moins nombreux que d'habitude à être venus ce matin et pour cause, les étudiants en master sont en pleine session d'enquête. Nous terminons notre deuxième semaine de travail et ça commence à tirer. En tout cas, nous avons hâte de vous parler de ces enquêtes à ce micro. Mais il y a quand même quelques courageux qui sont là aujourd'hui. On entendra Zachary qui nous parlera de Malik Houssekine. Kelvin évoquera l'éclairage des vitrines des magasins de Tours. Et on entendra une chronique de notre amie Marion, actuellement en alternance. Elle s'est penchée sur une question éducation liée à la réforme du BUT. On commence cette matinale en musique avec une chanson de Colette Mani. Elle nous raconte un retour en enfance.
De gosses dans un jardin. Mais locotte, nous, elle est maman. J'en sais rien, viens de moi la main. Pour aller où, j'en sais rien, viens. Papa, il a une grosse voix. Tu crois qu'on saura parler comme ça? J'en sais rien, viens. Mélocotone, mémé, elle rit souvent. Tu crois qu'elle est toujours contente? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Périnée, elle est grande, presque comme maman. Pourquoi elle joue pas avec moi? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Christophe, il est grand, mais pas comme papa. Pourquoi? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Dis, Mélocotone, tu crois qu'il nous aime? Ma petite boule d'or, j'en sais rien, viens, donne-moi la main.
Retour dans les années 60 sur Radio Campus, c'était Mélocotone de Colette Mani dans Good Morning Tour. Et sans plus attendre, commençons cette émission avec la première chronique. Zachary, salut.
Salut.
Tu présentes l'anachronique de cette semaine et tu nous racontes l'histoire d'une des affaires les plus tragiques de violences policières en France.
Et oui, bon alors pour cette troisième anachronique, Laura m'a passé le relais et je l'en remercie. Aujourd'hui, on va revenir quelques années en arrière. Mardi dernier, c'était le 36e anniversaire de la mort de Malik Houssekine, victime de faits de violences policières le 6 décembre 1986. Cet étudiant parisien d'origine algérienne est connu pour être décédé à 22 ans sous les matraques de policiers voltigeurs de la police parisienne, des faits qui ont refait surface dès 2018 au moment des manifestations des Gilets jaunes. Alors 86, on est en France sous le premier mandat de François Mitterrand, en cohabitation avec Jacques Chirac, son premier ministre affilié au RPR. Et la rentrée sociale est de sortie en décembre puisque les étudiants manifestent contre le projet de loi Devaquet qui vise à mettre en place déjà à l'époque la sélection et la concurrence à l'université. Des centaines de milliers d'étudiants et de lycéens manifestent dans toute la France, du jamais vu depuis mai 68. Et bien justement, les manifs de mai 68 ont contribué à la création par la préfecture de police parisienne des policiers voltigeurs. Alors on est loin du cirque, hein, puisque ce nom particulier désigne juste le fait qu'ils soient deux à moto, l'un qui pilote, l'autre armé d'une matraque. Pour disperser les manifestants dans d'éventuels mouvements sociaux pas assez disciplinés.
Et ils ont donc été mobilisés à la fin de l'année 1986.
Et oui Maël, on imagine bien que parmi les étudiants, il y a quelques personnes plus farouches que d'autres qui vont titiller le maintien de l'ordre. À l'époque, les 10 casseurs incendient des voitures ou dégradent des vitrines commerciales. Bon, l'éternel débat sur l'emploi de la violence dans le militantisme, je le laisse pour plus tard. Toujours est-il que la police est aux aguets.
Mais Malik Houssekine participait aux manifestations?
Eh bien non, lui il était étudiant à l'université Dauphine dans la gestion. Sa famille habitait à Meudon-la-Forêt, enfin bref, rien à voir avec un profil militant ou quoi que ce soit. Le soir du 5 décembre, il rentre du club de jazz dont il est un habitué dans le 6e arrondissement de la capitale. Le même jour, de grosses manifestations ont eu lieu pas loin, dans le quartier latin, et les policiers voltigeurs sont appelés vers minuit pour évacuer les derniers groupements d'agitateurs qui évoluent dans certaines rues. Houssekine, pris pour un étudiant, est alors pris en chasse par trois voltigeurs qui lui courent après jusqu'à un hall d'immeuble où ils le tabassent. Même si son corps est transporté à l'hôpital, il est décédé dans ce hall. Sa famille apprendra la terrible nouvelle le matin même à la radio.
À ce moment-là, comment est-ce que le pays a réagi ?
Alors, 4 jours après l'événement, le 10 décembre, une marche silencieuse est organisée à Paris. Le ministre De Vaquet, qui donne son nom au projet de loi à l'origine des manifestations, démissionne le 8 décembre et le dit projet de loi est reporté. Le corps des policiers voltigeurs disparaît et malgré les tentatives de faire passer la mort d'Ousekine pour normale au titre de ses problèmes de santé, les 2 voltigeurs qui l'ont massacré sont jugés. Mais cela plus de 3 ans après, en 90, et avec une peine symbolique.
Et que peut-on retenir de cette séquence aujourd'hui ?
Eh bien, plusieurs choses. D'une part, la doctrine du maintien de l'ordre a depuis l'événement été revue. En principe, le contact entre policiers et manifestants est absolument limité pour éviter les échauffourées. Il n'est donc pas étonnant d'avoir vu l'épisode être remis dans la lumière, notamment durant les violences policières qui ont émaillé les manifs des Gilets jaunes, mais aussi dès les émeutes de 2005. Parce qu'évidemment, la mort d'Ousekine se passe 18 ans après mai 68, mais aussi et surtout 25 ans après la mort de dizaines d'Algériens lors d'une manifestation sauvage à Paris, en pleine guerre d'Algérie. Un dernier mot pour résumer celui de Sarah Ousekine, la sœur du défunt, après l'annonce des peines requises contre les policiers assassins. Après la parodie de procès, je me suis rendu compte que dans ce pays qui est le mien, où je suis né, je serai toujours une citoyenne de seconde zone. La France a du boulot à faire.
En effet, merci Zachary pour cette anachronique. Écoutons maintenant Sixto Rodriguez de Sugarman. Un petit point sur l'histoire de cet artiste qui vaut le détour. Il a sorti 2 albums dans les années 70 qui n'ont connu le succès. Cependant, il est devenu très célèbre en Afrique du Sud où ses albums avaient été piratés puis diffusés en masse au point de devenir l'un des artistes les plus appréciés des jeunes de la classe moyenne blanche. Censuré pour ses paroles contestataires, évoquant les droits sociaux et la libération sexuelle, il a participé de fait à la montée du mouvement contre l'apartheid chez les Blancs.
Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart, when I found it, it had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. Won't you hurry, 'cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry. Jumpers cold, sweet Mary Jane.
Il est 7h29 sur Radio Campus Tours. Tout de suite, notre présentateur Maël nous présente le Flash Info du jour.
Et c'est parti pour un point sur l'actualité. Sortez couverts, les amis. Le gouvernement commence à s'alarmer d'un retour du Covid en France. Attendez-vous à un retour du masque? La première ministre Elisabeth Borne recommande de le porter dans les transports en commun et les lieux publics. Elle a également lancé un appel solennel à la vaccination, surtout à l'approche des fêtes de Noël, alors qu'une neuvième vague de Covid est en cours. La France fait en ce moment face à une triple épidémie avec la circulation simultanée du Covid, de la bronchiolite et de la grippe. Une situation inédite dont l'évolution est encore difficile à prévoir. Les ministres sont apparus hier à l'Assemblée nationale avec le visage recouvert par un masque, histoire de donner l'exemple. Sortez couverts, sans découvert, les amis, puisque Emmanuel Macron a annoncé la gratuité des préservatifs pour les 18-25 ans. Cela sera effectif à partir du 1er janvier prochain, annonce du président, ce jeudi à Fontenay-le-Comte, alors qu'il s'efforce de faire vivre le Conseil national de la refondation, le CNR. Pour le moment, les préservatifs étaient gratuits uniquement sur ordonnance. Cela implique une visite chez un médecin, perçu parfois comme un obstacle. Plus largement, Emmanuel Macron a considéré que sur la santé sexuelle des adolescents, il y a un vrai sujet. En attendant, les adolescents de moins de 18 ans ne sont pas concernés par cette nouvelle. Petite remarque cependant, pourquoi ne pas proposer cette mesure aux moins de 25 ans tout court, puisqu'un ado de 17 ans n'est donc pas concerné. Pour eux, ils peuvent encore se tourner vers les infirmeries de leur lycée ou le planning familial. Allez, une troisième fois, sortez couverts les amis. Vous l'avez sûrement vu, les températures sont très fraîches en ce moment. Cela est dû à une masse d'air froid qui nous arrive du nord de l'Europe, mais il est trop tôt pour parler de vagues de froid. Soyons précis, Météo France parle de vagues de froid lorsqu'il s'agit d'un épisode d'au moins 3 jours, que les températures franchissent les moins 2 degrés au moins une fois sur cette période. Alors derrière cette impression de froid, les scientifiques pointent notre accoutumance à des températures douces, alors que 2022 est d'ores et déjà l'année la plus chaude jamais mesurée en France. Kelvin vous en a parlé la semaine dernière. L'occasion de jeter un œil sur la météo entre moins 2 et moins 3 sur la moitié nord du pays ce matin et des valeurs positives sur la moitié sud. Dans l'après-midi, les températures auront du mal à décoller. Toujours des pluies verglaçantes sur une bonne partie du pays et des éclaircies qui arriveront dans la journée. C'est le cas ici à Tours. Toujours un vent glacial entre la Russie et les États-Unis, comme un air de guerre froide, au temps où l'on s'échangeait des prisonniers. C'est ce qui s'est passé hier. Washington a annoncé la libération de la joueuse de basket Brittney Griner. Elle était incarcérée en Russie depuis 10 mois. Elle venait tout juste d'être condamnée à 9 ans de prison. Son crime, la détention de cigarettes électroniques contenant un peu de cannabis. Et de qui le Kremlin a-t-il obtenu la libération en retour? Celle de Victor Bout, l'un des marchands d'armes les plus prolifiques au monde, connu pour avoir fourni entre autres les talibans et Al-Qaïda. Un autre Américain est encore emprisonné en Russie et les négociations se poursuivent. Les frontières sautent en Europe. La Croatie a été autorisée à intégrer l'espace Schengen à partir du 1er janvier 2023. Les ministres européens de l'Intérieur, réunis à Bruxelles, ont approuvé l'adhésion du pays qui devient le 27e membre de cette vaste zone. Pour rappel, dans l'espace Schengen, plus de 400 millions de personnes peuvent voyager librement sans contrôles aux frontières intérieures. La Croatie s'intègre donc peu à peu à l'Europe, puisqu'en janvier, le pays rejoindra aussi la zone euro. Par contre, l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie n'ont pas eu ce succès. Cela fait 10 ans que ces deux pays toquent à la porte de l'espace Schengen. Leurs candidatures se sont heurtées à un veto de l'Autriche, tandis que les Pays-Bas s'opposaient à celle de la seule Bulgarie. Les ministres autrichiens et néerlandais ont donc mis en avant leur crainte de voir s'intensifier les flux migratoires si ces deux pays venaient à intégrer l'espace Schengen. C'est dans ce contexte que Volodymyr Zelensky a été élu personnalité de l'année 2022. C'est le magazine américain Le Times qui établit le palmarès. Le président ukrainien a été choisi, je cite, pour avoir prouvé que le courage peut être aussi contagieux que la peur, pour avoir incité les gens et les nations à s'unir pour défendre la liberté, pour avoir rappelé au monde la fragilité de la démocratie et de la paix. Volodymyr Zelensky et l'esprit de l'Ukraine sont la personnalité de l'année du Time, explique le rédacteur en chef du magazine. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité. En tout cas, ce que nous avons retenu de l'actualité, puisque informer, c'est choisir. Donc, pour un résumé complet des infos de la semaine, je vous invite à lire les rattrapages de l'actu, la newsletter hebdomadaire des étudiants de l'EPJT. Elle est à retrouver sur notre site internet rattrapage-actu.epjt. Et pour rester dans la thématique, on écoute Oasis, c'est presque cliché, dans Look Back in Anger.
So sad.
C'était Don't Look Back in Anger de Oasis. On parle éducation aussi ce matin dans Good Morning Tour avec Marion. Les DUT, anciennement le diplôme universitaire technologique, deviennent des BUT, des bachelors universitaires de technologie. Une nouvelle formation en 3 ans, Marion nous en dit plus.
On ne les connaît pas trop honnêtement, ces étudiants des autres filières de l'UIT. Il faut dire qu'on ne partage notre couloir qu'avec les Infocom, comprenez les étudiants en information, communication, et que les 5 autres spécialités de BUT sont réparties entre tous les étages et les bâtiments. Mais cela ne vous a peut-être pas échappé, chers auditeurs, le diplôme universitaire de technologie est devenu un bachelor universitaire de technologie. Alors, vous me direz, quelle est la différence à part un nom plus américain digne des écoles de commerce ? Eh bien, une chose importante tout d'abord, le diplôme ne s'effectue plus en 2 ans, mais en 3 ans. Pour beaucoup d'étudiants, c'est une bonne nouvelle. La plupart des étudiants en DUT voulaient continuer leurs études, souvent par une licence professionnelle qui leur permettait d'avoir un bac plus 3 au lieu d'un bac plus 2, mais aussi de faire plus de stages, d'avoir plus d'expérience avant de rentrer dans le monde du travail. Le problème est que les places en licence pro, en LP comme on les appelle, étaient chères. Tous les étudiants sortant de DUT n'y accédaient pas. Au moins maintenant, ils sont sûrs d'avoir leur bac plus 3 sans avoir à passer par une nouvelle sélection pour leur dernière année. Mais cette réforme a aussi des inconvénients. Tous les étudiants ne veulent pas forcément faire des études longues et surtout cela a beaucoup touché les redoublants qui, au lieu de redoubler une année, redoublent 2 années. C'est le cas de Louis Linard, étudiant en génie biologie, parcours diététique à Tours.
L'année dernière, en fait, j'étais en 2e année de DUT et j'ai raté mon année. Du coup, on m'a permis de redoubler. Donc, vu que le DUT n'existait plus, je suis passé en BUT. Ça implique le fait de devoir passer une année en plus, du coup, l'année du BUT 3. Au lieu de faire les 2 ans d'études de DUT comme j'avais prévu, finalement, je vais devoir faire 4 ans d'études. Les 2 premières années, puis celle que je redouble là, et l'année, enfin, pour valider mon BUT, l'année de BUT 3.
En plus de devoir redoubler 2 années alors qu'il n'en a raté qu'une, Louis revoit des cours qu'il a déjà validés. Normalement, à l'Université de Tours, toute unité d'enseignement où on obtient la moyenne est définitivement validée. Mais dans son cas, les noms des unités d'enseignement ont changé, mais pas forcément les cours. Il doit donc passer des examens qu'il a déjà validés en première année de DUT à cause de la réforme. Mais dans le cas de Louis, on l'a prévenu dès son arrivée en première année de DUT que s'il redoublait sa 2e année, il aurait 2 ans de plus d'études à faire au lieu d'une. Mais il n'empêche que ça modifie les parcours de vie. Dans son cas, il comptait faire d'autres études après son DUT. Finalement, il va rentrer directement dans la vie active. Le BUT comporte aussi des avantages. Louis mentionne par exemple des cours et programmes plus détaillés, comme la formation est plus longue.
Et normalement, on devrait avoir accès à un programme d'éducation thérapeutique du patient. Donc, où de base, c'est une formation qui est en 40 heures, qui est une formation payante, qui sert aux professionnels de la santé. Alors que nous, en DUT, on le voyait en 10 heures. En fait, on n'avait pas la formation complète et du coup, il fallait reprendre la formation ensuite. Là, elle est prévue normalement pour la 3e année.
Donc tu dirais que c'est quand même une formation qui permet de plus approfondir les choses peut-être ?
Ouais, je pense que le BUT va quand même permettre ça, c'est-à-dire pouvoir prendre un peu plus de temps là où nous, on n'en avait pas en DUT.
Ses camarades de l'IUT sont aussi contents d'avoir plus de choix, de parcours ou d'options. C'est le cas des étudiants en technique de commercialisation. Bref, dans une réforme, il y a des hauts et des bas. À voir maintenant si nos voisins s'en sortiront tout aussi bien sur le marché du travail.
Et merci Marion pour cette chronique. Il est 7h42 sur Radio Campus Tours. On poursuit en musique avec Rodrigo y Gabriela. On écoute A New Man. Thank you. après ce morceau de guitare, il est 7h46 sur Good Morning Tours. On va évoquer maintenant cette mauvaise nouvelle pour environ 70 commerçants du centre-ville de Tours qui vont recevoir dans quelques jours un courrier de mise en demeure de la part de la mairie alors que la police municipale a effectué des contrôles. Kelvin, pour quelles raisons ces commerçants tourangeaux reçoivent-ils un avertissement ?
Eh bien pour la pollution lumineuse qu'ils engendrent illégalement entre guillemets. En effet, la mairie de Tours a expliqué ce mardi avoir envoyé des courriers à près de 70 commerçants du centre-ville de Tours pour non-respect de la loi. Vous l'avez dit, la police a effectué des contrôles et a constaté que des commerçants ne respectaient pas la loi et laissaient allumer leurs enseignes toute la nuit, alors que pourtant la loi est très stricte et l'interdit. Plus précisément, les enseignes lumineuses, donc l'extérieur du bâtiment, doivent être éteintes entre 1h et 6h du matin. S'il n'y a pas d'activité, bien sûr, une boulangerie qui ouvre avant 6h du matin a la possibilité d'allumer sa devanture et a même la possibilité d'allumer sa devanture 1 heure avant d'ouvrir son magasin. Ensuite, il y a les éclairages qui concernent l'intérieur des bâtiments, les vitrines principalement, en lien bien évidemment avec l'activité économique. Et la période de Noël est évidemment propice avec de belles vitrines, mais la loi est claire, elles doivent être éteintes au maximum 1 heure après la fin de l'activité et ne peuvent être allumées qu'à partir du lendemain 7h du matin ou 1 heure avant le début de l'activité. Alors certains se disent peut-être que pendant la période de Noël, il y a des assouplissements. Eh bien c'est vrai, le maire peut décider de suspendre ses règles la veille des jours fériés chômés et durant les périodes des illuminations de Noël. En revanche, toutes les villes ne font pas ce choix. Je précise qu'entre autres, il peut y avoir des dérogations pour les gares, les aéroports, les abris de bus qui peuvent être allumés la nuit.
Et alors Kelvin, qu'est-ce qui va se passer pour ces commerçants tourangeaux ?
Eh bien pour le moment, pas grand-chose. C'est un avertissement qu'ils ont reçu, mais un nouveau contrôle sera effectué prochainement pour constater la mise en conformité ou pas. Et si ce n'est pas le cas, la ville de Tours sanctionnera, c'est-à-dire qu'elle prendra un arrêté pour notifier l'infraction, pouvant donner lieu à une amende allant jusqu'à 1 500 €. Alors il faut savoir que depuis le 7 octobre dernier, cette règle d'extinction s'applique dans toute la France et pas seulement aux agglomérations comme c'était le cas par le passé.
Et pourquoi est-ce que les commerces ne se soumettent pas à la loi et continuent de laisser leurs enseignes allumées la nuit ?
Eh bien parce que derrière tout cela, il y a des enjeux économiques. Il faut être visible, se faire de la publicité, même la nuit. Mais dans un contexte de sobriété énergétique et où les menaces de coupure de courant cet hiver sont dans tous les esprits, cette pollution lumineuse gaspille, si on peut le dire comme ça, de l'électricité chaque nuit pour des enseignes qui ne sont peut-être vues que par très peu de monde. Et puis, laisser allumer les enseignes a de quoi irriter les associations de défense de l'environnement, car l'éclairage des enseignes la nuit participe à la pollution lumineuse qui reste encore très importante aujourd'hui, notamment quand on voit les images satellites au-dessus des villes.
Et alors Kelvin, qu'est-ce que c'est que la pollution lumineuse ?
Eh bien, ce sont tous les effets nuisibles sur l'environnement de toutes les sources lumineuses qui sont présentes artificiellement la nuit. Il n'y a pas que les enseignes des commerçants qui sont sources de pollution lumineuse, les lampadaires, les habitations, les panneaux d'affichage en sont aussi. Cette pollution peut avoir des effets néfastes et involontaires, principalement sur la faune et la flore. Par exemple, certains oiseaux migrateurs qui se déplacent la nuit peuvent être désorientés par ces lumières excessives. Les insectes, eux aussi, sont attirés par la lumière et s'épuisent en y tournant autour jusqu'à en mourir, ce qui par la suite va dérégler l'équilibre de la chaîne alimentaire. Bref, pour les commerçants, il va falloir trouver d'autres idées lumineuses pour continuer à être visibles tout en respectant la loi.
Et merci Kelvin pour ton éclairage sur ce sujet qui me fait penser aux actions de certains groupes ici à Tours comme Extinction Rebellion, Greenpeace ou encore l'action du collectif Rouge et Vert. Ils ont l'habitude d'éteindre les vitrines en reprenant des vidéos virales. Vous les avez vues se jeter sur les vitrines et atteindre les interrupteurs un petit peu perchés à quelques mètres de hauteur. On poursuit cette émission 7h50 sur Radio Campus. On écoute Charlie XX avec Christine and the Queen. On écoute New Shapes. What you want? I ain't got it. Sometimes I need all night, all day. We could fall in love in new shapes, new shapes. And when the morning comes, I'm sorry. I stay till you're honest and I can't change, can't change. What you want? I
thinking of me, but you're stuck on the west side again. Maybe we're meant for another dimension, babe. Deep in the dark of your brain, like a star in space. You call it art, but you pulled on my heart and you twisted it into a new shape. Yeah, I'm diving again and again, trying to get up close to you. Fucked if I know how it's gonna end. But honestly, life would be better if I never met you in the first place. What you want?
Il est 7h53 sur Radio Campus Tours et pour cette avant-dernière émission de l'année 2022 pour les étudiants de l'EPJT, Maëlle, qui aime beaucoup l'info, nous propose deux actus supplémentaires.
Effectivement, Kelvin, c'est parti pour un dernier point sur l'actu avant de clôturer cette émission. 3 mois de débat sur la fin de vie, c'est le programme qui s'ouvre ce vendredi pour quelques 200 Français tirés au sort. Ils conseilleront en mars le gouvernement sur un éventuel changement de loi, mais sans garantie d'être suivi. Le cadre d'accompagnement de fin de vie est-il adapté aux différentes situations? C'est la question qui occupera cette convention citoyenne. Donc sur la fin de vie, les termes d'euthanasie ou de suicide assisté ne sont pas explicitement mentionnés, mais les participants se pencheront sans aucun doute sur l'opportunité de légaliser l'une ou l'autre résultat de cette convention dans 3 mois. Deuxième actu, on s'en souvient sur la prise d'assaut du Capitole aux États-Unis, c'était spectaculaire, inquiétant et très américain. Un événement semblable aurait pu avoir lieu en Allemagne. En effet, plusieurs militants d'extrême droite ont été arrêtés par la police cette semaine. C'est tout un groupuscule d'extrême droite qui a été démantelé. Ils disposaient de nombreuses armes. La justice soupçonne la 50aine de personnes d'avoir fait des préparatifs concrets pour pénétrer violemment dans le Bundestag allemand. C'est le parlement allemand. Avec un petit groupe armé, selon le communiqué du parquet. Un scénario qui rappelle donc l'assaut du Capitole par les partisans de Donald Trump aux États-Unis en janvier 2021. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à l'équipe qui a participé à sa réalisation. Zachary qui était donc à la réal et aussi avec sa petite anachronique. Et merci aussi à Kelvin. Il est 7h55 sur Radio Campus. Très bonne journée à tous, bon week-end et on se dit à la semaine prochaine. Salut.